Bonjour et bienvenue, 10h, TU, midi, ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, plusieurs villes d'Ukraine à nouveau frappées dans la nuit par les forces russes, bilan au moins 2 morts et des dizaines de blessés. Par la voix du secrétaire d'État, les États-Unis menacent de se retirer des négociations en vue de mettre fin à la guerre, vous l'entendrez dans un instant. Bilan très lourd aussi au Yémen, les rebelles houthis annoncent 58 morts, plus de 100 blessés dans des frappes américaines sur un port pétrolier. L'Iran dénonce des frappes barbares. Washington applique de nouveaux frais à certains types de navires. Les propriétaires et armateurs de la plupart des navires fabriqués en Chine devront payer des droits lorsqu'ils accosteront dans les ports américains. En France, les syndicats reçus actuellement au ministère de l'économie. Au menu, les effets possibles de la hausse des surtaxes américaines sur l'emploi en France. En Ukraine, au moins 2 morts et 40 blessés. Dernier bilan des frappes russes qui ont visé dans la nuit plusieurs grandes villes, dont Kharkiv et Soumy dans le nord-est du pays. C'est là que 35 personnes ont péri dimanche dernier dans une double frappe de l'armée russe. Une nouvelle attaque de drones vient de faire 1 mort et 1 blessé. Ces frappes interviennent au lendemain de discussions entre alliés de Kiev. Américains, Ukrainiens et Européens étaient hier à Paris pour tenter de se coordonner face à Vladimir Poutine. Une autre réunion est prévue la semaine prochaine à Londres. Avant de quitter Paris ce matin, le secrétaire d'État Marco Rubio a laissé entendre que Washington pourrait se retirer des efforts de paix si les discussions continuaient à piétiner. Pour lui, c'est une question de jours, pas de semaines. On l'écoute.
Nous sommes venus ici hier pour commencer à discuter des grandes lignes de ce qu'il faudrait faire pour mettre fin à une guerre, pour essayer de déterminer très rapidement, et je parle de quelques jours, pas de quelques semaines, s'il est possible ou non de mettre fin à cette guerre. Si c'est le cas, nous sommes prêts à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faciliter cette fin et faire en sorte qu'elle se produise, qu'elle se termine de manière durable et juste. Si ce n'est pas possible, si nous sommes si éloignés l'un de l'autre que cela ne se produira pas, alors je pense que le président est probablement arrivé à un point où il dira « Eh bien, nous en avons terminé. Nous ferons ce que nous pourrons, à la marge. Nous serons prêts à vous aider lorsque vous serez prêts à faire la paix. Mais nous n'allons pas poursuivre cette entreprise pendant des semaines et des mois. Nous devons donc déterminer très rapidement, et je parle de quelques jours, si cela est faisable ou non au cours des prochaines semaines. Si c'est le cas, nous sommes prêts. Si ce n'est pas le cas, nous devons nous concentrer sur d'autres priorités. »
Le secrétaire d'État Marco Rubio avant de quitter Paris ce matin. Aux États-Unis, l'administration Trump est entrée en guerre avec le monde académique. Elle accuse par exemple la prestigieuse université d'Harvard de violer les lois sur l'égalité. Parallèlement, des milliers d'étudiants étrangers ont vu leur visa soudainement révoqué, parfois sans raison particulière. Pour le seul Texas, ils sont des centaines à être menacés d'expulsion, donc à voir leurs études et leur avenir compromis. Reportage de notre envoyé spécial Nathanaël Vitran.
En grande banlieue de Houston, nous retrouvons Naina. C'est un nom d'emprunt. Cette étudiante indienne de 26 ans est arrivée aux États-Unis il y a 4 ans. Légalement, précise-t-elle. Après avoir décroché un master en ingénierie mécanique, elle travaillait depuis 2 ans pour une entreprise américaine dans le cadre de ses études. Jusqu'à il y a 10 jours.
J'ai reçu un appel téléphonique m'informant que mon visa était révoqué, ce qui veut dire que mon permis de travail, qui était valable jusqu'à février 2026, est aussi annulé. Je ne sais pas pourquoi. Tout ce qu'on m'a dit, c'est que c'était lié à une activité criminelle.
Alors Naina se creuse la tête.
J'ai eu un accident de voiture en 2024. J'ai dû payer $80 d'amende parce que mon permis de conduire était expiré. J'ai fait quelques excès de vitesse et j'ai été condamnée pour un délit mineur à suivre un stage d'éducation civique. Mais la mention a été effacée de mon casier judiciaire.
Matthew Thompson est avocat spécialisé en droit de l'immigration. En 30 ans d'exercice, il n'avait jamais vu ça.
C'est vraiment le chaos. On leur ordonne de quitter le pays pour des histoires d'infractions routières ou pour avoir présenté une fausse carte d'identité. Un étudiant de moins de 21 ans qui veut acheter une bière, par exemple, des choses extrêmement mineures. Et dans au moins 2 cas sur 3, les étudiants ont été arrêtés mais n'ont même pas été condamnés.
Sinaïna est décidé à se battre coûte que coûte pour rester aux États-Unis. De nombreux étudiants étrangers, eux, ont préféré jeter l'éponge. Nathanaël Vitran, Houston, RFI.
Les rebelles yéménites font état de 58 morts, plus de 100 blessés et d'importants dégâts dans des frappes américaines contre le port pétrolier de Ras Issa dans l'ouest du Yémen. Cette attaque est la plus meurtrière depuis l'intensification des bombardements américains contre les rebelles houthis soutenus par l'Iran. L'Iran qui dénonce des frappes barbares. Dans la bande de Gaza, les secours palestiniens annoncent de nouvelles victimes tuées par les frappes israéliennes. 15 morts au moins, dont 10 membres d'une même famille, ainsi que de nombreux blessés. Cette fois en Cisjordanie occupée, l'opération militaire israélienne Mur d'acier a été lancée le 21 janvier dernier pour déloger les groupes armés dans les camps de réfugiés. Des dizaines de milliers de Palestiniens ont été contraints de quitter leur maison et certains, comme ceux du camp de Jenin, ont trouvé refuge dans les villes et villages voisins. Reportage d'Abla Junaidi.
À une dizaine de kilomètres du camp de Jenin, Dina tient une petite échoppe, celle de son époux, amputée après une frappe israélienne.
Je remplace mon mari. Je l'aide quand il ne peut pas rester trop longtemps à tenir le magasin.
250 personnes vivent dans ce petit camp en miniature, une résidence universitaire dont les loyers sont pris en charge par des associations. Pour combien de temps, se demandent la famille de Sama et Heya.
J'ai essayé d'aller au camp pour récupérer des affaires. L'armée m'a retenu 8 heures, les mains liées. Ils m'ont dit, si tu oses revenir, ta maison, on l'a fait sauter. Mon mari, contrairement à moi, il ne veut pas quitter le camp.
Heya et ses 3 enfants sont traumatisés par les mois de combat puis de départ forcé. Oussama essaye de faire la part des choses.
Dans le camp, on se connaît tous, on se respecte, on s'entraide malgré le fait que nous sommes tous dans la difficulté. Tant qu'on est unis, ça va. On a un problème, c'est l'école. Les enfants passent toute la journée dehors, dans la rue. Aucun ne va à l'école.
Une situation qui inquiète les organisations humanitaires, à commencer par celle de l'ONU. L'école constitue un soutien vital pour l'équilibre et l'avenir des enfants des camps de réfugiés. Abla Junaidi, Jérusalem, RFI.
Washington annonce de nouveaux frais imposables à certains types de navires. Les propriétaires et armateurs de la plupart des navires fabriqués en Chine devront payer des droits lorsqu'ils accosteront dans les ports américains. Les propriétaires et opérateurs chinois de bateaux non fabriqués en Chine, eux, sont aussi concernés. Mais les frais seront facturés à chaque visite aux États-Unis et non à chaque port américain visité. En France, les dirigeants syndicaux sont reçus ce matin à Bercy, le ministère de l'Économie. La réunion porte sur les effets possibles de la hausse des droits de douane américains sur l'emploi en France. Le ministre de l'Économie, Éric Lombard, devait ensuite s'entretenir avec le chef de l'État, Emmanuel Macron. Le vice-président américain J.D. Vance a entamé une visite officielle à Rome au menu des entretiens avec la présidente du Conseil Giorgia Meloni et la célébration de Pâques au Vatican. J.D. Vance a rendez-vous demain avec le bras droit du pape François. Il espère pouvoir aussi rencontrer le souverain pontife en convalescence après une grave pneumonie. Enfin, l'invité de RFI ce matin était André Correa do Lago, président de la COP30 sur le changement climatique. Cette COP se tiendra en novembre prochain aux portes de l'Amazonie, dans la ville brésilienne de Belém. L'année dernière a été la plus chaude jamais enregistrée et les attaques contre la science du climat se multiplient actuellement. Malgré les nombreuses difficultés qui l'attendent, André Correa do Lago pourtant reste optimiste. Jeanne Richard, spécialiste climat à RFI, revient sur ses déclarations.
Pour le président de la COP, Belém doit démontrer que le multilatéralisme est bel et bien vivant. Pourtant, la coopération internationale a connu de meilleurs jour et les États ont pris tellement de retard dans la publication de leurs nouvelles ambitions climatiques qu'il a fallu leur accorder plus de temps. Ces plans sont désormais attendus pour septembre au lieu de février initialement. Mais André Correa do Lago est un fin diplomate. Pour éviter de braquer les pays réticents à acter la fin des énergies fossiles, par exemple, il n'évoque presque jamais dans ses discours la nécessité pourtant claire de ne plus utiliser pétrole, gaz et charbon. Pour lui, chaque pays doit aller à son rythme et faire à sa manière. Une formule commode aussi pour répondre aux critiques sur l'augmentation de la production de pétrole au Brésil. C'est un débat national, défend-il. C'est aussi un président de COP pragmatique. Il sait que la transition écologique peut être mal vécue par les entreprises et la population et qu'il ne faut pas risquer de perdre les élections avec des mesures impopulaires. Alors pour convaincre, il promet, je cite, « des solutions bonnes pour l'économie et pour la vie des gens ».
C'était Jeanne Richard. Richard, un mot encore des intempéries qui ont frappé l'Italie et la France, notamment des chutes de neige. Deux disparus retrouvés morts en Italie, alors qu'une personne ensevelie en Savoie, en France, est décédée. Voilà pour l'information. Tout de suite, une rediffusion de 8 milliards de voisins avec Diarra Ndiaye.